Avant d'aborder le sujet que nous essaierons d'étudier ensemble, je voudrais faire quelques commentaires sur de nouvelles que ceux qui reçoivent par Internet le texte que notre pasteur rédige pour nous préparer au culte connaissent déjà. Il s'agit du départ pour la patrie céleste d'une sœur qui a beaucoup compté dans la vie de notre Église. Et je crois utile de commenter brièvement ce qui vous a été communiqué donc par déjà cette annonce. Notre sœur qui nous a quittés, Estelle Chevalier, qui était, si je ne me trompe, la grand-tante de notre présidente, de notre sœur Adeline Patin. Cette sœur a joué dans l'histoire de notre Église un rôle vraiment assez décisif pour plusieurs. Elle avait un don pédagogique remarquable, une grande consécration, et elle s'est occupée, quand j'étais enfant et quand j'étais adolescent, de tout le travail que nous appelons maintenant celui des ateliers bibliques. Elle a joué à peu près le rôle que joue notre sœur, mademoiselle Myriam Becquerio, aujourd'hui, et qui est si important pour la vie de notre communauté. Donc, Estelle Chevalier avait un très grand don, je me rappelle encore, Estelle Chevalier racontant l'histoire de Noël au moment de la fête. Et lorsque mon père a été appelé à fonder l'école d'Albertville, qu'on appelle centre missionnaire d'apprentissage du français pour les missionnaires qui vont travailler dans les pays francophones et qui ne sont pas francophones d'origine. Il s'agit de leur apprendre le français sous la forme qui leur sera la plus utile pour leur ministère, ce qui ne se trouve pas, par exemple, à l'Alliance française. Donc, lorsque mon père a été appelé à fonder cette école, il a estimé qu'il y avait une personne qui serait vraiment capable de mettre sur pied le programme, qui avait les compétences, les dons. Et il a demandé à notre sœur Estelle Chevalier d'assumer cette tâche. Alors, ça a été un peu une perte pour notre Église. Je pense que nous ne pouvons pas l'ignorer, mais ça a été un rayonnement de notre Église que la tâche qu'elle a accomplie là-bas, admirablement. Et donc, elle a résidé à Albertville jusqu'à cette dernière semaine. Et elle a un témoignage rayonnant. Je peux encore quand même mentionner que lors de la dernière invitation que j'ai reçue à parler à ce centre missionnaire, j'ai pu avoir une heure d'entretien avec elle. Un souvenir céleste. Vraiment, vraiment, c'est un trésor que je garde dans ma mémoire, que ce moment que j'ai pu passer avec cette femme de Dieu qui est maintenant auprès de son Seigneur. Voilà ce que je voulais vous communiquer. En ajoutant peut-être encore que la famille, j'ai mentionné qu'elle est la grand-tante de notre sœur Adeline, mais toute la famille a été une très grande bénédiction pour notre Église. Le père d'Estelle Chevalier, Gaston Chevalier, a été un pilier de notre Église pendant toute la période de l'entre-deux-guerres, et encore dans la période qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale, où il était déjà un peu plus âgé, mais toujours très, très présent. Et il avait trois filles, et une aînée a épousé un pasteur, mais donc elle a aussi quitté notre église. Notre sœur Renée Chevalier a épousé le pasteur Lucien Loche, et a eu un ministère aussi de cette façon. Et la seconde, Yvonne, a épousé M. Adalbert Berger. Et tous les anciens, tous ceux qui sont un peu anciens dans notre Église, se rappellent quelle bénédiction la famille Berger a été pour notre Église pendant des décennies et des décennies. Voilà. Donc nous pouvons louer le Seigneur pour cette continuité de sa grâce et les instruments qu'il utilise. Voilà ce que j'avais à cœur de vous communiquer. Et maintenant, donc, nous abordons le sujet que j'ai cru devoir mettre à notre ordre du jour, celui des signes des temps et plus spécialement sans doute de la fin des temps dont nous parle l'Écriture, dont nous parle surtout le Nouveau Testament. Et nous lisons, pour introduire notre travail, quelques versets pris dans l'Évangile selon Matthieu. Alors je lis dans la Nouvelle Bible Second et j'explique d'un mot pourquoi ce choix. Bon, il s'explique en partie par le fait que j'ai été associé, j'ai participé au travail de la réalisation. Mais c'est aussi que la Bible, Nouvelle Bible Second, est celle qui colle du plus près à l'original hébreu ou grec que Dieu a plénièrement inspiré. Les autres Bibles se lisent plus facilement, c'est plus fluide, mais dans la forme, alors elles essaient de respecter le sens, mais dans la forme, elles s'éloignent un peu plus du texte original. Alors, pour la méditation personnelle, pour une première approche, c'est sans doute mieux de prendre une Bible comme la Bible du Semeur. Mais pour une étude biblique qui veut vraiment serrer ce que Dieu a dit de la manière la plus rigoureuse et exacte, je crois que je peux recommander quand même la Nouvelle Bible Second. Ceux qui peuvent recourir à l'original eux-mêmes, c'est très bien, mais avec la Nouvelle Bible Second, vous avez ce qui s'en rapproche le plus en français. Et pourquoi ? Pour tout ce qui est étude biblique, c'est celle que je recommande. Donc, selon cette version, au chapitre 16 de l'Évangile selon Matthieu, je lis les trois premiers versets. Les pharisiens et les sadducéens, c'est-à-dire deux partis religieux du judaïsme de l'époque, abordèrent Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils veulent lui tendre un piège. Et lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Il leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. Une génération mauvaise et adultère recherche un signe, il ne lui en sera pas donné d'autre que le signe de Jonas, un signe de jugement pour le peuple. Puis il les laissa et s'en alla. » Puis nous continuons dans ce même évangile, mais cette fois au chapitre 24, qui est un grand chapitre qui concerne plutôt la fin des temps. L'introduction nous montre bien quel est le sujet. Alors je ne vais pas tout lire parce que ça nous prendrait un peu trop de temps, mais je lis quelques versets dans ce chapitre 24 de l'Évangile selon Matthieu. D'abord les huit premiers versets. « Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, le grand temple de Jérusalem, ses disciples vinrent lui en faire remarquer les constructions qui n'étaient pas encore tout à fait achevées, mais qui étaient grandioses. Il leur répondit, « Vous voyez tout cela ? Amen, je vous le dis. » Amen, ça veut dire, oui, c'est sûr, c'est bien ça. « Amen, je vous le dis, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, il ne soit renversé. » Jésus prédit la destruction de Jérusalem et du Temple qui a eu lieu en l'an 70 du premier siècle. Comme il était assis sur le mont des Oliviers, la colline à l'est de Jérusalem, les disciples vinrent lui demander en privé, « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il ? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Que prenez garde que personne ne vous égare. Beaucoup, en effet, viendront en se servant de mon nom, en disant, « C'est moi qui suis le Christ !» Et ils égareront une multitude de gens. Vous allez entendre parler de guerre et de rumeurs de guerre. Gardez-vous de vous alarmer, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Car nation se dressera contre nation, et royaume contre royaume. Dans divers lieux, il y aura des famines, des tremblements de terre. Mais tout cela ne sera que le commencement des douleurs de l'accouchement de l'âge nouveau, du royaume de paix et de justice que le Seigneur établira. Ces 8 premiers versets, je continue au verset 11 à 14. Beaucoup de prophètes de mensonges se lèveront et égareront une multitude de gens. Parce que le mal se répandra, l'amour de la multitude se refroidira. Et celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du règne de Dieu, sera proclamée par toute la terre habitée. Ce sera un témoignage pour toutes les nations. Alors viendra la fin. Jésus continue encore, tout cela est pertinent, mais je bondis maintenant au verset 34 et 35. Quand vous verrez tout cela, sachez qu'il est proche, aux portes, le moment où le Seigneur va révéler sa gloire. Amen. Je vous le dis, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Non pas que tout soit accompli, mais que tout cela ne commence à s'accomplir. Ce sera le commencement des douleurs, a dit clairement Jésus. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Et encore au verset 44, « C'est pourquoi vous aussi soyez prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. » Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu, nous évoquerons d'autres passages encore, mais ceux-ci sont à la base de ce que nous avons à considérer. Jésus reproche à ses contemporains, en particulier dans l'épisode qui nous est rapporté aux pharisiens qui étaient le parti majoritaire et aux sadducéens, de ne pas discerner les signes des temps, ces signes qu'il rapporte au thème de la fin dans le chapitre 24, et nous avons des chapitres parallèles dans les autres évangiles et bien sûr d'autres versets dans toute la Bible qui se rapportent au sujet. Si Jésus reproche à ses contemporains de ne pas s'inquiéter des signes des temps, il me semble que c'est un encouragement pour nous à tenter de reconnaître à notre tour, dans notre temps, les signes que le Seigneur peut bien vouloir nous accorder. Et d'autant plus que nous sommes plus près, comme le dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, du jour où tout cela sera consommé, où toutes les promesses s'accompliront. Nous sommes plus près de ce jour que quand nous avons cru. Tout jour qui passe nous rapproche de ce jour majuscule que nous attendons. Donc il y a pour nous encouragement à scruter ce qui se passe pour discerner les signes des temps et les signes de la fin dans notre temps. Mais il y a des embûches. Et je commence par quatre remarques qui doivent nous avertir avant que nous commencions à chercher quels sont éventuellement les signes qui s'offrent à notre vue. D'abord, il s'agit de discerner. Ce n'est pas quelque chose de simple et d'évident. Il faut de l'intelligence pour comprendre ce qui est en cause. Jésus nous avertit. Il s'agit de signes et non pas de signaux. Les signes sont porteurs de sens et il s'agit d'en discerner le sens, de les interpréter droitement. Mais il ne s'agit pas simplement d'un élément qui va se produire et que tout le monde reconnaîtra en même temps très facilement, et puis voilà, c'est ça, c'est le moment. Non, ce n'est pas des signaux, ce sont des signes, et faisons attention de ne pas confondre. Deuxièmement, parmi les risques de la recherche, il y a l'illusion de la maîtrise. Si nous croyons discerner les signes des temps, nous pouvons croire alors que nous sommes capables de fixer le calendrier, que nous sommes capables de dire, voilà, ça ne peut pas être bien plus longtemps. Non. Jésus a dit à ses disciples, au chapitre 1er du livre des Actes, que ce n'est pas à nous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Donc, nous avons des signes qu'il faut comprendre, et ils nous aident, comme nous allons le voir, dans notre vie chrétienne, mais ne croyons pas que nous sommes capables de fixer des dates. Non, non, Dieu se réserve cette connaissance. Il ne veut pas que nous essayions de l'acquérir et que nous prétendions l'avoir obtenue. Et malheureusement, ça a été un piège pour même de grands hommes de la tradition évangélique. Et même le grand Luther, vraiment un homme de Dieu dont Dieu s'est servi très puissamment, à la fin de sa vie, il a glissé dans le piège d'écrire un livre où il croyait pouvoir fixer des dates. Et non, ce n'est pas possible. Résistons à l'illusion de cette maîtrise. Résistons à la tentation de forcer les choses pour faire concorder ce que nous voyons avec les prophéties, parce que nous avons tellement envie que le Seigneur revienne bientôt. Nous prions bien bientôt. Et donc, nous pouvons être tentés de forcer. Je crois qu'il suffit de courir un peu sur Internet, moi je ne le fais guère, hein, mais pour trouver bien des prédicateurs qui tombent dans ce piège, qui croient pouvoir faire concorder, en forçant les choses, concorder ce qui s'observe, et puis des prophéties de la Bible. Et parmi ces tentations de forçage, il y a comme une prime donnée au pessimisme. Vous savez que même en dehors des églises, il y a aujourd'hui des gens qui professent ce qu'on appelle la collapsologie, qui répandent l'idée que voilà, c'est la fin du monde, c'est la fin du monde, tout est prêt à tomber en ruine. Le mot vient du mot anglais collapse, qui signifie l'effondrement. Vous avez des gens qui sont adeptes de la collapsologie, d'après le terme qui circule. Et parmi les chrétiens, plus on est pessimiste, plus certains pensent que c'est spirituel. Plus on peint les choses sous les plus sombres couleurs, alors plus on paraît dans la ligne. Non, 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 c'est pas si simple, là encore. C'est une illusion de maîtrise. Il nous faut garder notre bon sens, rester dans une droite raison, comme le dit l'apôtre Paul dans un texte que nous allons tout à l'heure évoquer encore plus précisément, dans la seconde aux Thessaloniciens, la seconde lettre aux Thessaloniciens au chapitre 2. Il en dit « Ne vous laissez pas ébranler dans votre raison, dans votre bon sens ou raison. » Donc, attention à ces pièges qui sont présents. Troisième remarque quand même, il y a du profit à étudier ces prophéties et à essayer de discerner ce qui s'en accomplit sous nos yeux. Et il y a un réconfort. Notre délivrance est proche. Il y a une confirmation de la foi. Et il y a la vigilance. Soyez prêts, dit Jésus. Veillez, veillez et priez. Parce que même s'il y a des signes qui nous avertissent, nous ne maîtrisons pas les temps et les moments. Et Jésus le dit dans le verset que nous avons lu, le Seigneur viendra au moment où vous ne l'attendrez pas. Il faut être prêt en tout temps parce que les choses ne seront pas simplement évidentes comme nous voudrions parfois qu'elles le soient. Et dernière remarque préliminaire, pour discerner ces signes, évidemment, il faut avoir une certaine idée des événements de la fin. C'est quand on les voit déjà s'esquisser qu'on se dit, voilà, ce sont des signes que la fin approche. Toute une interprétation des prophéties, qui est parfois discutable, tous les chrétiens évangéliques ne sont pas d'accord, est donc impliquée dans le discernement des signes des temps et signes de la fin. Alors je ne vais pas faire maintenant le travail de résumer tout le message de ces prophéties et des discours de Jésus sur la fin. Je l'ai fait, et c'est dans un petit livre que certains de vous connaissent, sur l'espérance chrétienne. Donc je m'appuie sur ce que je crois avoir pu conclure à ce moment-là. D'ailleurs, ce petit livre est issu de leçons d'institut biblique ici. Hein. C'est à partir de ce que j'avais dit à l'église il y a quelques années que avec les enregistrements, ce petit livre a été réalisé. Alors, je signale que je m'appuie sur l'interprétation de la doctrine de la fin dans la Bible, qui est résumée dans ce petit livre intitulé « L'espérance chrétienne ». Ces éléments préliminaires couverts, que faut-il dire des signes de la fin aujourd'hui ? D'abord que les signes que Jésus évoque ne sont pas des signaux réservés à une période spéciale, mais d'abord des signes de la précarité de notre monde. Vous l'avez remarqué, Jésus mentionne essentiellement des phénomènes négatifs, des destructions, les guerres, les séismes, etc. Alors ils se sont produits à toutes les époques. Peut-être, je le pense, faut-il attendre une intensification de ces phénomènes à la fin de l'ère chrétienne, dans la période tout à fait finale. Mais même cela, ce n'est pas dit si clairement dans les textes. Ces signes ont pour sens de nous avertir du fait que ce monde passe, la figure de ce monde passe. Le ciel et la terre passeront, dit Jésus. Et oui, nous sommes dans un monde qui est en sursis, un monde sur lequel on ne peut pas miser sa destinée éternelle. C'est pour nous rappeler cette fragilité de la vie humaine, y compris dans toutes ces grandes structures sociales, dans toutes ces grandes réalisations, tout le long de l'histoire, que ces signes, d'abord, nous sont donnés. Alors Jésus mentionne des catastrophes naturelles, les séismes, par exemple, les tremblements de terre. Alors, il y en a toujours eu. Et je me rappelle même que notre pasteur d'autrefois, le pasteur Marc Adger, que certains anciens se rappellent, avait écrit à l'Institut de géophysique du Globe à Strasbourg pour demander si vraiment, comme certains le disaient, les tremblements de terre sont tellement plus nombreux maintenant qu'ils ne l'étaient. Et on lui avait répondu non. Hein. Mais il avait spécialement écrit pour savoir si la multiplication des tremblements de terre était un signe particulier. Et non, ne pas exagérer, être sobre, rester dans son bon sens. Mais c'est un signe que notre monde est un monde qui n'a pas sa stabilité en lui-même, qui n'est pas destiné à durer toujours. Jésus mentionne aussi les famines. Je pense que tous les grands phénomènes naturels de cette sorte sont en cause dans cette signification. Dans un seul passage, Jésus mentionne aussi les pestes, les épidémies. Et la question surgit alors, l'épidémie, la pandémie, comme on dit, puisque c'est le monde entier qui est affecté, d'aujourd'hui, est-ce un signe de la fin? Jésus ne mentionne qu'une seule fois dans l'évangile de Luc, chapitre 21, verset 1 à 11. Donc c'est comme un avertissement de ne pas en faire trop à ce propos. Certes, toute épidémie nous rappelle la fragilité, la précarité de notre vie, mais quand même. Et je voudrais quand même ajouter, justement parce qu'il y a des discours sur Internet en particulier qui vont tellement dans un autre sens, je voudrais rappeler que cette épidémie, qui est douloureuse, affecte des vies de manière vraiment dramatique, mais c'est quand même, par rapport aux épidémies de l'histoire humaine, encore assez peu de choses. Alors, je ne parle pas de la peste noire à la fin du Moyen-Âge, qui a ravagé pratiquement la moitié, en tout cas le tiers, de la population de l'Europe, mais même il y a un siècle seulement, à l'échelle de l'histoire, un siècle, c'est pas tellement. C'était la grippe espagnole qui a aussi affecté le monde entier. Or, d'après ce que j'ai lu, je n'y étais pas, d'après ce que j'ai lu, elle a fait entre 50 et 100 millions de victimes, de morts, dans le monde, il y a un siècle. Or, la population mondiale était moins du tiers de la population actuelle. C'était moins de 2 milliards alors que nous sommes au moins 7 milliards. Donc si vous calculez, s'il y avait 100 millions de morts, pour savoir quel pourcentage ça représenterait aujourd'hui, il faut aller à 300 ou 400 millions de morts. Alors 3 millions de morts, pour le moment en tout cas, c'est déjà terrible, mais vous vous rendez compte du changement de proportion, du changement d'ordre de grandeur. Ce qui, dans cette pandémie actuelle, est le plus original, qui ne correspond pas à une expérience qu'on a eue dans tous les siècles, me semble pouvoir se résumer de deux façons. D'une part, l'extension a été beaucoup plus rapide, parce que le virus est très, très contaminant, très contagieux, et en particulier sa variante anglaise, paraît-il, mais aussi à cause de la mondialisation, parce que les communications se sont multipliées en 50 ans de façon fantastique, même pas le double, le triple, peut-être le quadruple. Et c'est pour ça que le virus a voyagé si rapidement, là, bien sûr. Alors en soi, je pense qu'on peut considérer que cette multiplication des échanges est un fait neutre. On pourrait s'en féliciter, mais dans le cas de la maladie, il a évidemment permis une multiplication très rapide. Et puis deuxième fait, je pense que c'est la première fois que tant de gouvernements du monde, presque tous, hein, la première fois que tant de gouvernements du monde sacrifient l'économie à la survie des vieux, dont je suis. Dans les épidémies précédentes, on ne pouvait pas tout arrêter comme cela s'est fait. Les mesures de confinement étaient beaucoup plus locales, beaucoup plus particulières, et quand les épidémies étaient bien plus affolantes, pour une épidémie comme celle du SARS-CoV-2, c'est son nom le plus scientifique, on n'aurait rien fait il y a quelques dizaines d'années. Et les vieux dont je suis seraient morts, hein, en plus grand nombre. Donc, ce qui est original dans la situation présente, c'est ce soin de la vie des tranches d'âge les plus élevées. Donc, on peut dire que c'est plutôt un point positif. Nos sociétés qui foulent à ce point la vie humaine en permettant l'avortement comme elles le font, sacrifiant les tout-petits à leur idole, à leur moloch de la réussite de soi, etc. Nos sociétés ont quand même là manifesté un respect de la vie, même chez les personnes improductives, qui est remarquable, qu'on peut saluer. Bon, vous voyez, ce sont des remarques que je fais, non pas pour traiter de l'ensemble de la question, mais pour dire que je ne crois pas que nous devions désigner l'épidémie Covid comme un signe des temps particulièrement net qui nous montre que vraiment les choses ont tellement empiré et que la fin est tout à côté. Alors Jésus ajoute les guerres. Les guerres sont vraiment une horreur. Elles font des millions de morts. Et il y a des guerres actuellement, le Moyen-Orient, avec des millions de réfugiés, tant de malheurs, et des budgets de défense. Ah, dans ce monde, il en faut sans doute, hein, des budgets de défense qui sont quand même vertigineux, en particulier aux États-Unis et en Chine actuellement. Donc, mais les Français sont des grands vendeurs d'armes également. Oui. Là, les guerres sont un signe que ce monde va à sa perte, que ce monde ne peut pas durer toujours. Et oui, les guerres sont de cette sorte. Mais remarquons quand même que, pour, en tout cas pour la France, nous sommes dans une période privilégiée. Il y a des conflits civils, et parfois ça fait des morts. Mais jamais dans l'histoire de la France, il n'y a eu une aussi longue période sans des armées qui s'affrontent sur le sol de notre hexagone. Jamais, depuis que la France existe. Depuis 1945, Et ça fait maintenant une période quand même assez longue. Le Seigneur nous a accordé ce répit, ce répit. Nous sommes avertis qu'il y a des guerres et que, que le monde n'échappera pas aux guerres. C'est un effet du péché qui continue d'être dans le monde. Et puis alors, Jésus parle aussi souvent de la persécution de ses disciples fidèles. Et là encore, nous sommes épargnés, même si nous sommes à juste titre inquiets des restrictions que la loi qui est en discussion pourrait apporter à l'exercice du culte. Mais nous sommes épargnés quand même, en gros, même s'il y a des cas individuels dans des familles qui peuvent être dramatiques, nous sommes épargnés par la persécution. Mais l'an dernier, on donnait le chiffre de 250 millions de chrétiens qui sont persécutés dans le monde. Et j'ai même lu pour cette année, pour une année après, 340, le nombre augmentant dans des pays comme l'Inde, par exemple, qui a une réputation de démocratie. Mais les chrétiens sont vraiment très durement persécutés. Donc, nous avons là ces signes de la précarité de notre monde qui nous sont présentés. Deuxième catégorie, je vais accélérer un petit peu. Deuxième catégorie, les conditions de vie dans notre monde présent qui favoriseraient les évolutions que les prophéties nous laissent attendre. Je trouverai ça dans le petit livre L'espérance chrétienne. Je pense qu'on va vers une sorte de gouvernement mondial avec un antichrist à la tête. Donc, y a-t-il des traits de notre monde qui aillent plutôt dans ce sens, des conditions qui favoriseraient, je crois. Oui. Il y a d'abord la croissance démographique que j'ai déjà évoquée il y a un instant. Nous sommes plus de 7 milliards. Jamais l'humanité n'avait atteint un tel nombre. Et en un siècle, donc du triplement. Et c'était le maximum déjà qui avait été atteint dans l'histoire il y a un siècle. Donc nous avons là quelque chose de nouveau qui, je crois, peut provoquer certains des changements que les prophéties nous laissent attendre. Parce que cette bombe population, bombe paix, certains l'ont appelée comme ça, elle favorise la crise écologique. Oui, bien sûr, la crise écologique, elle est liée à des habitudes de consommation, elle est liée à du gaspillage, mais elle est aussi liée forcément à la multiplication du nombre des humains. C'est inévitable, c'est pas que nous ayons là des effets. Même quelque chose d'aussi simple que la crise du logement, qu'on manque de logement. Mais il est tout à fait normal que lorsque la population française, depuis le temps de ma naissance, augmente d'au moins 60%, eh bien, il y ait moins. Il faut construire des logements nouveaux et donc il est plus difficile de trouver l'espace voulu. Cela se lie à l'évolution des techniques. Alors là, c'est sans doute un fait encore plus important. Les découvertes et l'application des découvertes scientifiques donne un pouvoir aux humains qu'ils n'avaient jamais détenu. Toute la galaxie Marconi, comme on l'a appelé, toute électronique, la télévision, etc., a représenté un bond en avant prodigieux. Mais ensuite, il y a eu les ordinateurs, toute l'informatique. Et ensuite, il y a tous les réseaux sociaux, il y a l'Internet. Ce sont des changements concrets, prodigieux. Et de nouveau, il y a des inquiétudes très fortes qui s'expriment en ce moment, et pas seulement chez les chrétiens, hein, mais aussi chez les chrétiens. Je reçois des documents du Centre protestant de défense de l'humain, de CPDH, qui manifestent ces inquiétudes à propos d'une loi en discussion. La mainmise sur le détail des activités de chacun des citoyens est maintenant rendu possible par les instruments électroniques. On peut être suivi partout. Alors on a peur du pouvoir que ça donne aux GAFA, comme on les appelle, mais aussi que cela donne au gouvernement, et avec les mesures sanitaires, des contrôles sont effectués, dont on se demande si, une fois passée l'épidémie, ils ne vont pas rester pour réduire les libertés individuelles. Il y a maintenant les moyens techniques d'une sorte de dictature mondiale qui entre jusque dans l'intimité des foyers, qui surveille notre façon de vivre 24 heures sur 24. Et à cela, à ces tendances, donc, s'ajoute, me semble-t-il, une des tendances plus culturelles qui relève de la psychologie sociale, si vous voulez, ou même de la psychologie tout court. Je pense que la désagrégation de la structure familiale, l'élimination du père dans l'éducation de tant et tant d'enfants, produit, je l'ai lu, je ne suis pas spécialiste, mais produit des individus qui ne sont pas gravement malades, psychologiquement pour la plupart, mais qui sont quand même plus égocentrés, plus narcissiques, plus immatures que ceux qui ont le bénéfice d'une éducation dans une structure familiale plus conforme, je crois, à l'intention du Créateur. C'est un élément qui, forcément, fragilise nos démocraties mêmes, car des individus narcissiques qui n'ont pas une image du père forte ont beaucoup moins d'épines dorsales, si j'ose dire, d'épines dorsales morales pour résister aux entraînements de la propagande, pour résister à des régimes du type que le XXe siècle a connu, fasciste, nazi, communiste. Donc nous sommes dans des conditions qui pourraient très bien virer de manière dramatique. Et alors j'atteins la troisième catégorie des signes des temps que je vous invite à décoder, à décrypter, l'esquisse, alors je dis peut-être par prudence, des faits de la phase finale. Et là, je lis le texte de la seconde épître aux Thessaloniciens que j'ai évoqué il y a quelques instants. Tant pis, il ne va pas s'afficher parce que je ne l'ai pas indiqué à l'avance, excusez-moi, mais je vous le lis. Nous vous le demandons, frères, écrit l'apôtre Paul, en ce qui concerne l'avènement du Seigneur. Nous monterons à sa rencontre, nous serons toujours avec lui, nous serons rassemblés avec lui. Ne vous laissez pas trop vite ébranler dans votre bon sens, c'est le mot traduit habituellement par raison, ni alarmé par un message inspiré, par une parole ou par une lettre venant prétendument de nous, mais pas en réalité, hein, frauduleusement, et comme quoi le jour du Seigneur serait déjà là. Oui, vous voyez à quoi ça correspond, à beaucoup de choses qu'on trouve dans ces prédications d'Internet. Que personne ne vous trompe d'aucune manière. Il faut d'abord que vienne l'apostasie et que se révèle la personnification du mal, celui qui est voué à la perdition, l'homme du rejet de toute loi, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de tout ce qu'on adore, qui va jusqu'à s'asseoir dans le sanctuaire de Dieu et à se présenter lui-même comme Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore chez vous ? Maintenant, vous savez ce qu'il retient pour qu'il se révèle en son temps. Déjà, le mystère du mal est à l'œuvre. Il faut seulement que celui qui retient, maintenant, ait disparu. Alors se révélera le sans-loi que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, qu'il réduira à rien par la manifestation de son avènement. Là, l'apôtre Paul indique des choses qui doivent se produire avant la fin finale, avant vraiment le dernier moment où il paraîtra et où, par le souffle de sa bouche, par l'éclat de la puissance de son esprit, il réduira à totale impuissance l'homme qui s'élève contre lui et que nous appelons le plus souvent, ce n'est pas dans ce texte-là, mais dans d'autres textes du Nouveau Testament, l'Antichrist. L'apostasie. Apostasie, ça veut dire abandon de la vérité par des gens qui ont fait mine d'y adhérer et de la professer. Et il me semble, hélas, une telle apostasie est très très visible autour de nous. Il y a dans beaucoup d'églises, prétendument des églises chrétiennes, des discours qui abandonnent totalement la vérité que les apôtres nous ont transmise. Il y a eu des théologies de la mort de Dieu, des gens qui ont décrit une athéologie parmi les théologiens reconnus, hein, qui ont place dans certaines églises. Je me rappelle une remarque d'un théologien catholique écrivant un livre sur le théologien protestant Pannenberg, qui lui maintient quand même, malgré beaucoup d'insuffisances de sa théologie, qui maintenait, puisqu'il est juste décédé il y a quelques années, qui maintenait la résurrection de Jésus comme un fait historique. Cet auteur, théologien catholique, disait, c'est le seul Pannenberg parmi tous les théologiens protestants et catholiques qui maintiennent une telle position. Alors, évidemment, il exagérait, il nous comptait simplement pour rien, hein, simplement. Mais c'est dire la situation, c'est dire que dans le monde des théologiens, il y a une apostasie qui est réellement très, très, très présente. Et nous pouvons constater des efforts concertés et systématiques depuis maintenant des décennies pour effacer la marque dite judéo-chrétienne, la marque que l'influence de la Bible dans les temps de chrétienté avait imprimée à notre culture, pour effacer cette marque de notre culture. C'est en matière éthique que les choses ont pu changer en 50 ans, et voilà aussi, me semble-t-il, un signe de cette augmentation du mal que Jésus annonce. Le mal augmentera. Et donc l'amour chrétien d'un grand nombre en sera refroidi. Il y a une montée du mal, une apostasie qui apparaît. Et puis il y a alors cet homme sans loi qui se prend pour Dieu. Si c'est un individu, comme je pense que c'est le plus probable, alors on ne le voit pas encore. Et on peut dire que Hitler ou Staline et Mao Zedong ont davantage ressemblé par le culte de la personnalité qui s'est organisé autour d'eux, ont davantage ressemblé à cet homme qui doit venir. Mais si jamais ça veut dire un type d'homme qui rejette toute loi, qui se divinise, qui prend sa liberté comme un absolu, alors là, cet homme-là est présent. Cet homme-là, il élève la voix autour de nous, nous ne pouvons pas le nier. Donc nous avons, me semble-t-il, là cette situation qui pourrait marquer la proximité de la fin, sans que nous maîtrisions les temps et les moments. Jésus ajoute un élément aussi qui annonce cette fin. Et alors celui-là, il est positif. Celui-là, il est réjouissant. Et nous l'observons aussi. Jésus dit, la bonne nouvelle du royaume, du règne de Dieu, sera diffusée dans toutes les nations. Alors viendra la fin. Vous avez entendu ce verset tout à l'heure. C'est extraordinaire que Jésus, ce rabbin obscur, connu juste un peu autour de lui en Judée, mais c'est un petit pays, que Jésus, avec une poignée de disciples, puisse annoncer que ce message serait diffusé dans le monde entier, toutes les nations. Eh bien, c'est ce qui est le cas. C'est ce qui est le cas aujourd'hui. Avec une croissance de l'évangélisation tout à fait remarquable au cours de la période de notre vie. Donc là, c'est un point positif duquel nous pouvons être vraiment très reconnaissants. C'est quand la tâche d'évangélisation sera achevée, et selon mon interprétation, c'est cela qui retient le mystère du mal de se manifester à 100%. C'est ce qui le retient dans 2 Thessaloniciens 2. C'est précisément la mission chrétienne. Il faut que la bonne nouvelle soit annoncée partout, d'abord. Mais on y est presque. Il y a des missionnaires partout. Et il y a, par les moyens techniques nouveaux, précisément, le moyen d'atteindre des populations, même là où les autorités interdisent toute évangélisation. Donc nous avons là un signe positif. Et puis dernier signe que nous pouvons considérer, le signe d'Israël. Le signe d'Israël, il est dans toute l'Écriture, bien sûr, très important. Et je pense que l'apôtre Paul, là aussi c'est une interprétation discutée, mais je crois qu'elle est largement admise parmi nous, je crois que l'apôtre Paul nous enseigne, au chapitre 11 de l'Épître aux Romains, qu'il y aura une conversion massive des Israélites selon la chair, qui reconnaîtront leur Messie en Jésus. Et cela sera le prélude, c'est la fin du temps des nations. La plénitude des nations, de tous les élus parmi les nations, sera rentrée. Et là, l'endurcissement partiel qui affecte les Israélites selon la chair cessera. Et il y aura un grand mouvement de regreffe de ces branches coupées dans l'olivier du peuple de Dieu. Je crois que c'est ce nous est promis aussi comme un événement qui doit précéder la fin finale. Or, il s'est produit de mon vivant, peut-être pas du vivant de tous parmi vous, un événement quand même extraordinaire dans l'histoire. La reconstitution d'un État d'Israël. Israël a été un peuple errant, dispersé dans toutes les nations pendant des siècles et des siècles, presque 2000 ans. Et jamais il n'y a eu un État d'Israël depuis la révolte de Bar Korba au début du IIe siècle. Or, depuis 1948, il y a un État d'Israël. Et depuis 1967, Jérusalem n'est plus foulée aux pieds par les nations des non-juifs, elle est sous autorité juive. Alors là, ça peut. Il me semble que c'est une mesure préparatoire du Seigneur avant ce grand mouvement de conversion que j'attends, et que bien sûr, comme il est juste de toujours faire avec ce que Dieu a prédit, que je demande aussi dans la prière. Oui, il y a, me semble-t-il, ce fait-là qui nous interroge. Alors, c'est sûr que l'enthousiasme à ce propos est moins grand qu'il y a 50 ans ou 60 ans, parce que ça venait de se produire, et puis l'État d'Israël, il n'est pas en si bon état, si j'ose dire. Aujourd'hui. Mais quand même, c'est un événement extraordinaire et je pense que nous pouvons le prendre comme une mesure préparatoire du Seigneur avant l'événement principal qui est celui de la grande conversion. Et puis, il y a le mouvement des croyants juifs en Yeshua, c'est le nom en hébreu de Jésus, les croyants juifs en Jésus. On les appelle parfois juifs messianiques, mais c'est une appellation qui est disputée, donc il vaut mieux employer croyants juifs en Jésus. Ils sont nombreux dans le monde entier, et en Israël, il y en a. C'est peut-être l'amorce de ce grand mouvement qui nous est promis, que je crois nous pouvons attendre. Parmi ceux qui travaillaient à la diffusion du témoignage de Jésus parmi ses compatriotes selon la chair, parmi les Juifs, il y avait Jacques Guggenheim. Il est venu assez souvent dans notre église, je sais, plusieurs anciens doivent le connaître, donc il est maintenant auprès du Seigneur. Il y a 8 jours, il y a eu un service de reconnaissance pour sa vie, un service d'obsèques, rue de Lille, j'ai pu y participer, et je pense que nous pouvons saluer l'œuvre que Dieu a accomplie par Jacques Guggenheim aussi comme un élément qui prépare ce mouvement que nous attendons. Alors, il y a eu d'autres moments dans l'histoire où il y a eu beaucoup de Juifs qui se sont convertis à Jésus, au XIXe siècle en particulier. Et il y en a eu pas mal qui ont été traités comme des juifs à Auschwitz, qui sont morts, qui étaient des croyants, nos frères et sœurs en Jésus, qui ont été tués en tant que juifs par les nazis. Mais aujourd'hui, il y a quand même un mouvement mondial important, et donc je pense que nous pouvons y discerner un signe que bientôt le Seigneur Jésus va revenir, que bientôt son règne s'établira. Alors cela nous réconforte, cela nous encourage, cela nous porte à la vigilance. Veillons et prions. Amen. Je crains que notre disposition rende difficile d'avoir des questions, des échanges de questions. Et l'heure étant aussi juste arrivée, je pense, je crois que je rends la présidence à notre frère M. Samuel Boom. Voilà, alors, je suis un peu sourd, donc attention. Oui. C'est une question complexe qui est très intéressante. Donc, je la répète peut-être pour que tout le monde entende bien ce qui est en cause. Donc, avec cette perspective que j'ai développée, comment comprendre l'hostilité des pays musulmans à l'égard de l'État d'Israël en particulier et à l'égard du judaïsme de manière plus générale, et quand on pense à ce qu'ont souffert les Juifs par la Shoah au cours de la Deuxième Guerre mondiale, comment interpréter cela? C'est bien cela votre question? Oui, c'est ça. Donc, je pense qu'il y a deux éléments qu'on peut prendre en compte de manière tout à fait sérieuse. Il y a une injustice qui a été commise à l'égard du peuple qui était résident en Palestine, musulman en majorité, mais aussi il y avait pas mal de chrétiens, pas chrétiens entre guillemets peut-être, des chrétiens traditionnels, mais il y a une injustice qui a été commise. On a dit dans les années 40, un peuple sans patrie ou sans pays va pouvoir recouvrer un pays sans peuple. Mais non, la Palestine n'était pas vide du tout. Et il y a eu des mesures très dures qui ont été sciemment utilisées pour faire fuir un nombre important de Palestiniens. Et alors les pays arabes alentours, au lieu de les accueillir, les ont parqués dans de grands camps avec une amertume et un ressentiment qui s'est poursuivi de génération en génération. Mais il y a eu une injustice. Ça a été, je pense, assez bien démontré par un livre qui m'a influencé, un livre d'un évangélique qui a vécu au Moyen-Orient, qui s'appelle Chapman, qui a repris cette histoire. Et je sais que notre frère, M. Sylvain Romerovski, qui est juif d'ascendance, mais qui est très capable, a tout à fait la position que je viens de vous dire. Il a tout à fait dénoncé l'injustice qui a été commise. Donc, il y a ça qui s'accompagne en plus d'un sentiment d'humiliation. Pour la culture musulmane, l'humiliation, c'est peut-être le pire. Hein. Or, ces pays arabes ont été humiliés par la création de l'État d'Israël, humiliés par la défaite de 67 surtout. Voilà. Donc, ça explique, je pense, en grande partie, et ça affecte des chrétiens dans musulmans. Hein. Je me rappelle, maintenant ça date, mais j'avais fait une tournée à Alger, et là, je voyais bien que les chrétiens vraiment ne digéraient pas l'État d'Israël. C'était vraiment très, très difficile. La deuxième grande remarque que je fais, c'est que ça peut correspondre à certaines prophéties, parce que cet avenir pour Israël encore, que les prophéties impliquent, je pense surtout à celle de Zacharie, nous indique que ça ne se fera pas tout seul et qu'il y aura une coalition de nations non-juives qui attaquera et que Jérusalem sera une pierre pesante pour tous les peuples. Donc, c'est aussi un accomplissement de prophétie, peut-être en tout cas, je veux être prudent, que cette hostilité. Et il y a une certaine rivalité quant à l'élection divine. Je me rappelle avoir lu un livre très intéressant d'un spécialiste de l'islam, respecté par les musulmans sans être musulman lui-même, qui disait que Mahomet s'est conçu comme un Moïse pour les Arabes. Ce que Moïse avait été pour les Juifs, il pensait l'être, par vocation divine, pour les Arabes. Et donc, il y a comme une rivalité quant à l'élection. Quel est le peuple élu ? Vous voyez ? Où se trouve la révélation finale ? Et s'ajoute aussi, d'ailleurs, pour l'antisémitisme, hélas, qui a tellement défiguré beaucoup du traitement chrétien. Et là aussi, il y a comme une rivalité quant à l'élection. Est-ce que c'est nous qui sommes le peuple élu ou est-ce que c'est Israël ? Oui. Donc, je crois que c'est comme ça que s'expliquent ces passions virulentes qui existent aujourd'hui et qui sont sincères.